les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle.
Comment les arts racontent-ils, imaginent-ils ou contestent-ils les relations entre liberté fondamentale et contraintes écologiques ? Dans ce 3e épisode, Carolina Cerda-Guzman, maîtresse de conférence en droit public à l'Université de Bordeaux, dialogue avec Margot Valenzi, maîtresse de conférence en littérature comparée à l'Université de Bordeaux-Montaigne, à propos des œuvres de Pablo Neruda.
Bonjour Margot.
Bonjour Carolina. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs d'Amicus Radio. Nous sommes toutes deux ravies d'être aujourd'hui à ce micro pour vous parler de Pablo Neruda et plus précisément de la manière dont cet artiste voit et appréhende les rapports entre l'homme et la nature et ce que cela nous enseigne sur nos libertés. Mais avant de nous plonger dans son œuvre, il faut dire quelques mots sur lui. Qui est Pablo Neruda ?
Pablo Neruda est un grand poète chilien qui traverse le XXe siècle. Né en 1904 à Temuco, il meurt en 1973, 2 ans après avoir été lauréat du prix Nobel de littérature et quelques semaines seulement à peine après le coup d'état du général Pinochet au Chili. Neruda est connu à la fois comme poète, mais aussi comme un homme politique, puisqu'il fut membre et sénateur du Parti communiste chilien.
Dans le parcours poétique de Pablo Neruda, la guerre d'Espagne constitue un moment crucial de sa réflexion sur l'engagement en poésie. Il a rappelé dans ses mémoires, le contact avec l'Espagne l'a conduit à renoncer au subjectivisme mélancolique des premiers recueils, à repenser la place de la matière dans la création et à inventer, je le cite, un chant profondément enraciné dans les aspirations de l'être humain. À ce titre, Canto General, chant général dans la traduction française de Claude Couffon, est publié pour la première fois en 1950 au Mexique. Ce recueil poursuit la réflexion néroudienne sur la triangulation entre l'homme, le territoire et la liberté. Alors exilé au Mexique, le poète lutte pour une redéfinition de l'américanité et il œuvre poétiquement à la reconquête de l'historiographie sud-américaine. En effet, dans un monde bipolaire en tension, au sein duquel, rappelons-le à grands traits, l'Amérique dite du Sud cherche à se libérer, sinon à s'opposer à la domination politique et économique de l'Amérique dite du Nord, ou plus au fond, les États-Unis, la célébration de la nature excède largement la question du lyrisme pour devenir un vecteur poétique de l'expression de liberté nouvelle et à venir. Pour le dire simplement, au sein de ce recueil de près de 500 pages, Neruda invente un parcours, par bien des aspects épiques, à travers des époques et des territoires latino-américains. Le recueil s'ouvre d'abord par le chant intitulé « La lampe sur la terre », qui célèbre la terre américaine d'un temps antérieur à l'homme. Par la suite, les 15 chants qui composent cette vaste fresque historique donnent à voir et à entendre les assauts et les violences endurées par cette Amérique résistante que le poète exalte. Dans Chant général, la représentation de la terre et la géographie, c'est-à-dire l'écriture de la terre au sens littéral du terme, constitue un enjeu poétique et politique majeur. Neruda, comme ses autres amis, les peintres muralistes Diego Rivera ou David Alfaro Siqueiros, qui ont illustré la première édition du recueil, a très vite cerné la nécessité de refonder un imaginaire proprement latino-américain. Ainsi, c'est en prenant les traits de l'Inca du Limon que le poète a magnifié la faune et la flore latino-américaine en remotivant notamment leur appellation autochtone. Il a célébré la beauté et la puissance de terres martyres et de fleuves tels que l'Amazone ou le Biobío. Mais il a également rendu visibles et audibles les violences causées d'abord par la conquête espagnole, puis par l'impérialisme états-unien au territoire dit sud-américain. Sous sa plume, la nature se métamorphose en chambre d'écho des violences faites aux terres colonisées, par exemple par Cortés et ses hommes, par Pedro de Alvarado ou encore par la United Fruit Company. Ainsi, c'est le viol et le démembrement du corps de l'île cubaine qu'on nous donne à voir, mais c'est aussi le fleuve mexicain Papaloapan ou encore la ville andine Cararmarca, fief de l'empereur Inca Atahualpa, qui rougissent du sang de leurs morts. Ce sont enfin, je cite, les sangs minéraux et secrets des terres qui sont absorbés par les conteneurs des entreprises états-uniennes. Pour le poète communiste, articuler la révolution politique et la révolution cosmique dans les poèmes permet également de représenter comme naturel et organique la résistance et l'avènement d'un homme nouveau. Pour ce faire, Neruda s'est inspiré d'autres artistes, comme le peintre Diego Rivera ou le poète nicaraguayen Rubén Darío. Et il a cherché à combiner notamment le motif de la germination à la représentation de la nature, capable de faire émerger de ses tréfonds ses propres héros. La terre araucane est exemplaire à ce titre de la résistance à l'oppresseur, en ce qu'elle parvient à faire naître des libérateurs capables de reconquérir des libertés et des terres spoliées par les conquistadors européens.
C'est pour cette raison que l'on a choisi de vous faire écouter une lecture réalisée par le poète lui-même de deux poèmes de chant général dédiés aux héros Lautaro et Caupolicán.
Pero Caupolicán llegó al tormento, ensartado en la lanza del suplicio. Entró en la muerte lenta de los árboles. Arauco replegó su ataque verde. Sintió en las sombras el escalofrío. Clavó en la tierra la cabeza. Se agazapó con sus dolores. El toqui dormía en la muerte. Un ruido de hierro llegaba del campamento. Una corona de carcajadas extranjeras, y hacia los bosques enlutados, solo la noche palpitaba. No era el dolor, la mordedura del volcán abierto en las vísceras, era un sueño del bosque, el árbol que se desangraba. En las entrañas de mi patria entraba la punta asesina, hiriendo las tierras sagradas. La sangre quemante caía de silencio en silencio, abajo, hacia donde está la semilla, esperando la primavera. Más hondo caía esta sangre, hacia las raíces caía, hacia los muertos caía. Hacia los que iban a nacer caías. La sangre toca un corredor de cuarzo. La piedra crece donde cae la gota. Así nace Lautaro de la tierra.
Dans ces extraits, Caupolicán, élevé dans la souche secrète du Raoli chilien, défie l'adversaire de son visage de forêt et renaît sous les traits de Lautaro. La mise en scène de ce processus de régénération des héros illustre magnifiquement la manière dont Neruda articule le chant de la nature, le chant de la résistance et l'expression d'une liberté nouvelle. Mais en d'autres lieux du chant général, le paysage naturel se donne comme la caisse de résonance d'une autre confusion des chants, celle du chant d'amour et celle du chant d'armes. Il s'agit alors, pour le poète, d'exporter l'énergie vivifiante de l'amour vers un autre espace vital et vivant, la terre. Dans ce cas, la fusion des corps du couple, cette cellule minimale d'un collectif à venir, se voit vite redoublée par la fusion de ces corps avec l'espace naturel. Et c'est au cœur même de cette confusion, au sens littéral du terme, qu'ils parviennent à mêler l'érotique et le politique, en naturalisant, d'un même coup, le chant et la cause. Dans Chant Général, les images chtoniennes abondent ainsi pour représenter la femme comme le réceptacle d'un monde, cette conque terrestre en qui la terre chante, précisément en vue de fédérer une communauté plus vaste.
Or, quoi de mieux pour rendre hommage à Neruda que d'écouter une version plus moderne et féminine d'un de ses poèmes ? Écoutons ici la reprise de son poème « A callarse » interprété par Julieta Venegas, une autrice-compositrice-interprète mexicaine dans lequel Neruda invite l'humanité tout entière à se taire, à rester immobile juste un instant pour précisément mieux entendre ce que la Terre peut nous enseigner.
Todos están. estaríamos juntos en una inquietud instantánea, instantánea. Tal vez no hacer nada por sola, solo una vez. Tal vez un gran silencio pueda interrumpir esta tristeza. Para una vez sobre la tierra, una vez, no hablemos en ningún idioma. Por un segundo detengámonos, no movamos tanto los brazos. Los que preparan guerras, victorias y sobrevivientes.
Afin de vous montrer toutes les facettes de l'œuvre de Pablo Neruda, je souhaite à mon tour parler d'un autre de ses ouvrages, Odas Elementales, intitulé dans la traduction française « Odes élémentaires ». Ce livre, qui est sorti en 1954 et traduit en français par Jean-Francis Rey en 1974, est pour moi une des œuvres les plus faciles d'accès de Neruda. Ceci s'explique par la simplicité apparente de son écriture, mais aussi des thèmes qu'il a choisi d'aborder. Que trouve-t-on dans ce recueil ? On y trouve un poème et 65 odes. Une ode est un poème un peu spécial. C'est un texte destiné à être chanté ou accompagné de musique et qui est généralement consacré à des valeurs importantes, à des sentiments intimes très puissants et nobles. Or, Neruda, lui, a décidé de les consacrer à des objets extrêmement prosaïques, voire méprisés ou négligés, montrant ainsi sa volonté de renouveler une conception du lyrisme. Alors certes, on y trouve une ode à l'amour, au bonheur, à l'espoir ou aux fleurs. Mais on y trouve également une ode à l'artichaut, à l'oignon, à l'automne, à la pluie ou au simple fait de regarder des oiseaux. Le choix des thèmes à lui seul interpelle. Cette sélection d'éléments semble n'avoir été faite sans aucune hiérarchie ou choix clairement identifié. Les thèmes sont uniquement organisés par ordre alphabétique. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ce caractère erratique révèle en réalité un choix politique profond, celui de mettre la nature et ses éléments les plus anodins au même niveau que d'autres plus nobles. Ainsi, quand on lit ce recueil, on est emporté par un tourbillon d'éléments qui nous entourent, dans lesquels les choses essentielles à la vie, comme l'air, le feu et l'eau, se mélangent à d'autres bien plus triviales, mais finalement tout aussi essentielles, comme une fleur bleue, une châtaigne tombée au sol ou une carafe de vin. Cet inventaire des éléments du monde qui nous fait penser à celui de Prévert n'est cependant pas surréaliste. Il ne s'agit pas d'une longue liste de choses déconnectées les unes des autres, mais bien au contraire d'un ensemble cohérent, et même d'un tout terrible. À cet égard, si on examine la poésie de Neruda avec nos yeux d'aujourd'hui, eh bien elle peut nous sembler avoir un caractère daté. Neruda n'était pas un pionnier de l'écologie, loin de là. Sa perception fondamentalement anthropocentré de la nature, c'est-à-dire tout entièrement tourné autour de l'être humain, peut apparaître comme quelque peu rébarbative. Et pourtant, il y a un vrai pouvoir subversif dans cette poésie qui peut nous aider encore aujourd'hui à changer notre regard sur la nature. Cette conscience aiguë que la Terre et ses ressources constituent un enjeu politique majeur, cet éveil à la multiplicité des éléments naturels, ainsi que sa démarche consistant à effacer la barrière entre l'humain et la nature, nous donne un nouvel élan par son universalisme. Car il ne fonde pas cette symbiose entre nature et homme sur des éléments uniquement culturels ou religieux. Il ne nous dit pas que cette symbiose serait propre à une société donnée ou à une région bien spécifique du monde. En se focalisant sur les éléments naturels du quotidien et de notre quotidien, le poète chilien nous invite à penser la nature comme un grand tout, immense et incarné, comme un bien dont il faut jouir intensément chaque jour et qu'il faut aimer comme on doit aimer son prochain. Ainsi, c'est par le respect de la dignité humaine que Neruda souhaite que l'on sauvegarde cette nature. Si on a une haute estime de l'humain et de sa dignité, comme Neruda le chante, alors cette même estime doit s'appliquer à la nature et à tous ses éléments, même les plus insignifiants. La protection de la beauté de la nature, sous toutes ses formes, est un moyen de protection de nos libertés. Mais pour les protéger, encore faut-il unir ses forces. Le peuple, y compris ses éléments naturels, doit être uni, comme le chantait le groupe Quilapayún dans une chanson aujourd'hui célèbre et dont les couplets ont été chantés avec force lors de l'enterrement de Neruda et qui viennent ici clôturer cet épisode.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás.